Partager le savoir. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, un recteur, une académie, une expérimentation, tel est le titre de cette rubrique coproduite par la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire, la DGESCO, et Canal Académie, une rubrique qui a pour but de permettre un dialogue autour d'une pratique d'enseignement innovante qui est encore en expérimentation dans les établissements scolaires ou qui est déjà considérée comme une bonne pratique. Pour cette nouvelle émission, je vous propose de vous pencher sur l'enseignement de la science à l'école primaire et au collège en 6e et en 5e. Un sujet qui intéresse de près l'Académie des sciences, puisque c'est en son sein qu'est née la main à la pâte, une initiative pour favoriser l'enseignement de la science par une démarche d'investigation scientifique. C'était en 96 déjà, et aujourd'hui, nous allons le voir avec nos invités, l'initiative porte ses fruits. Et puis, depuis 2006, existe également dans les établissements volontaires l'enseignement intégré de sciences et technologies, les EIST. Il s'agit de rassembler au collège trois disciplines, les sciences et vie de la Terre, SVT, la physique-chimie et la technologie, pour faire un cours de sciences au sens général avec un seul professeur, et ceci est destiné aux 6e et aux 5e. Pour nous parler avec nous de ces expérimentations, de ces bonnes pratiques, trois personnes sont dans le studio de Canal Académie. Jean-Michel Blanquer, directeur de l'enseignement scolaire, Alain Boissineau, recteur de l'Académie de Versailles, et Pierre Léna, membre de l'Académie des sciences, cofondateur de la main à la pâte. Messieurs, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose de nous intéresser en premier lieu à la main à la pâte. Avant 96 et les débuts de la main à la pâte, seulement 5% des professeurs des écoles enseignaient la science à l'école primaire. En 2010, ils étaient 40%. Alors j'imagine qu'en 2012, et là je me tourne vers vous, pour commencer Pierre Léna, ils sont encore un peu plus nombreux.
Nous n'avons pas de chiffres rigoureux sur ce point. Nous savons qu'environ une moitié des classes de l'école primaire française restent hésitantes vis-à-vis d'un enseignement scientifique. Ça progresse. Les professeurs, il y a 15 ans, avaient comme argument ou prétexte qu'ils ne savaient pas faire, qu'ils manquaient de ressources. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc c'est un chantier qu'il faut continuer à labourer patiemment avec le concours du ministère et l'Académie continue à s'y employer.
Alors je me tourne justement vers le ministère. Jean-Michel Blanquer, il y a les connaissances que les élèves vont acquérir à travers ces expériences qu'ils vont consigner dans leur cahier d'expérience. C'est le cas donc de la main à la pâte. C'est aussi une approche différente de la transmission des connaissances pour le professeur envers les élèves. Mais j'imagine aussi que l'apprentissage du raisonnement scientifique est important et nécessaire pour toutes les autres disciplines.
Oui, on peut dire que l'expérience EIST est à la croisée de plusieurs éléments ultra prioritaires pour le ministère de l'Éducation nationale. D'abord, il y a une chose qui est très importante pour nous, c'est le lien entre l'école primaire et le collège. On sait qu'entre le CM2 et la 6e, il y a un peu une sorte de perdition aujourd'hui, parce que les élèves sont désorientés d'avoir plusieurs professeurs, plusieurs disciplines, après avoir connu la logique de l'école primaire. Et donc, nous faisons beaucoup de choses pour rendre beaucoup plus continu, beaucoup plus fluide ce passage de l'école au collège, parce que c'est une clé de la réussite des élèves, et notamment des élèves les plus en difficulté. Il y a des acquis de l'école primaire qui doivent être capitalisés, si je puis dire, à l'entrée en collège, et puis il y a des manières de faire au collège qui doivent être beaucoup plus en continuum par rapport à ce qui se passe à l'école primaire, ce qui passe notamment par de la coordination entre les professeurs, et cette coordination, elle est dans le suivi des enfants, mais aussi une coordination scientifique, intellectuelle, c'est-à-dire savoir ce que l'autre fait pour s'en inspirer. Et donc c'est vrai que la main à la pâte a commencé d'abord par l'école primaire, et la main à la pâte, avant d'être une méthode, c'est un état d'esprit, auquel nous adhérons totalement, bien sûr, qui a plusieurs facettes d'ailleurs, mais dont une des facettes, c'est l'esprit inductif, l'esprit concret, l'esprit expérimental, et l'esprit de connexion des disciplines, puisque le monde n'est pas découpé en disciplines. Les disciplines servent à aborder le monde, et on doit faire ça, comprendre cela à l'enfant dès le début, et elles sont évidemment indispensables et nécessaires, mais elles doivent communiquer entre elles pour pouvoir permettre d'appréhender bien le monde. Quand je parle à un micro, je mobilise plusieurs disciplines, des disciplines physiques, mais aussi des sciences humaines et sociales. Donc le monde est un tissu de problèmes, un tissu de questions, et c'est non seulement ces questions et ces problèmes, mais le tissu lui-même, les liens entre les problèmes que nous devons faire apprendre aux enfants, à l'école comme au collège, par une démarche pédagogique appropriée.
Alors c'est parfait, vous avez résumé l'émission en quelques phrases. Interdisciplinarité, coordination entre les professeurs et puis justement cette question de la transmission, du passage du primaire au collège. On va y revenir puisque au cours de cette émission, nous avons deux témoignages. Le premier, un témoignage d'un professeur des écoles qui nous explique justement ce passage qui se fait peut-être pas encore très aisément, on y reviendra. Et puis pour ce qui est de la coordination entre les professeurs, nous avons justement un professeur de sciences et vie de la Terre qui justement nous explique tout ce travail qui est nécessaire entre les professeurs sciences pour justement travailler avec ses élèves. Alain Boissineau, vous êtes le recteur de l'Académie de Versailles, première académie par ses effectifs, plus d'1 100 000 élèves dans les premiers et seconds degrés. Savez-vous combien de professeurs se lancent justement dans cette main à la pâte et combien de professeurs se lancent aussi dans ces enseignements intégrés de sciences et de technologies, les EIST?
Alors, je dirais un peu comme Pierre Léna il y a un instant, dans le premier degré, c'est difficile de quantifier exactement. Oui. Parce qu'en fait, il y a surtout un esprit main à la pâte qu'on essaie de diffuser le plus largement possible dans les écoles. Donc, il n'y a pas forcément une démarcation claire et nette entre des écoles où on mettrait en œuvre la main à la pâte, d'autres où on ne le ferait pas. Je crois que c'est plutôt un ferment de renouvellement pédagogique. Hein, on pourra y revenir. C'est plus clair sur les collèges avec l'expérimentation, l'enseignement intégré des sciences et de la technologie, puisqu'on est amené à accompagner de très près l'organisation et les services des enseignants. Dans une académie comme la mienne, où cette expérimentation a dès le départ reçu un accueil très favorable, même enthousiaste de la part de certains établissements et des corps d'inspection, on a actuellement 10 d'établissements qui sont très engagés dans l'expérience. Depuis 2006, il y a eu un certain renouvellement d'ailleurs. Certains sont entrés dans l'expérience, d'autres en sont sortis parce que l'expérience, elle est très liée au volontariat d'équipe et donc à la présence dans le même établissement d'enseignants qui travaillent ensemble, qui sont également motivés. Le facteur humain joue un rôle tout à fait essentiel. Et j'ai actuellement beaucoup d'établissements qui ne demandent qu'à entrer dans cette expérience. Elle peut se généraliser ou en tout cas elle peut s'étendre rapidement. Je pense d'ailleurs que l'une des questions qui est devant nous, c'est de savoir, maintenant que nous avons un peu de recul, comment on va gérer la suite. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit continuer à raisonner en termes d'expérimentation? Est-ce que le moment n'est pas venu d'en tirer un certain nombre de conséquences institutionnelles, notamment sur l'organisation des enseignements scientifiques au collège?
Alors la question pourrait être posée peut-être à M. Blanquer. Est-ce que justement, actuellement nous parlons d'expérimentation, à terme, cela sera installé de manière durable dans tous les établissements?
L'objectif, en tout cas, est d'arriver à une extension. On ne fait rien par l'injonction sur ces sujets-là. On doit former les professeurs, convaincre, partager, produire une contagion des bonnes pratiques. Ces choses-là ne se passent pas du jour au lendemain et ce serait contre-productif de dire on veut généraliser. Mais il est exact qu'il y a un état d'esprit général qui consiste à penser que du côté des sciences, d'une part, du côté des humanités, d'autre part, il est bon de favoriser le travail d'équipe dans l'esprit de la main à la pâte. Et après, sur le plan de la méthode, il peut y avoir 1000 façons de le faire, d'une certaine façon, même si, avec l'Académie des sciences, on a pu élaborer une méthodologie rigoureuse qui est évidemment offerte et ouverte à tous ceux qui ont envie de se l'approprier.
Monsieur le recteur, vous
voulez rajouter d'ajouter un point à ce que dit Jean-Michel Blanquer. Bon, j'ai eu la chance de vivre avec Pierre Léna les débuts de la main à la pâte dans les années 90.
Vous avez même contribué à la paternité, vous pouvez le dire.
On y a bien travaillé à une certaine époque. Et j'ai la chance de retrouver maintenant sur le terrain, dans mon académie, toutes ces pratiques. Ce que je voudrais souligner, c'est que cette démarche de la main à la pâte, maintenant d'enseignement intégré, elle représente quelque chose de très nouveau dans le pilotage pédagogique du système éducatif. On sait depuis longtemps qu'on a un problème dans le système éducatif français, Jean-Michel Blanquer y faisait allusion tout à l'heure, qui est le cloisonnement disciplinaire et le fait que les enseignants sont formés, sont habitués à raisonner à travers le prisme de leur discipline et ont du mal à travailler en équipe. Très longtemps, lorsqu'on voulait faire bouger cette réalité, on se disait, peut-être faut-il modifier la formation des enseignants, leurs obligations de service. C'est par exemple le débat bien connu dans notre pays, un débat difficile sur la polyvalence des enseignants. Et on s'est rendu compte que ce débat, de cette manière, arrivait à une impasse, soulevait en plus de très nombreuses réticences de la part des enseignants. Et cette impasse, elle est liée au fait qu'on raisonnait là du point de vue des professeurs. Et ce que la main à la pâte et maintenant l'enseignement intégré au collège apporte, à mon avis, de décisif et de résolument nouveau, c'est qu'on passe du point de vue des élèves. Le problème, là, n'est pas de savoir si le professeur maîtrise tous les champs du savoir. Le problème, c'est comment les élèves, eux, peuvent avoir une vision cohérente d'un donné réel qui est complexe et où on trouve des problèmes qui relèvent des maths, qui relèvent de la physique, qui relèvent de la technologie. Et ça, c'est le point de vue de l'élève. Et de ce point de vue-là, la main à la pâte, ensuite l'enseignement intégré, dessine des perspectives d'évolution très importantes pour le système éducatif. D'une certaine manière, c'est le même esprit qu'on retrouve au niveau des lycées. Jean-Michel Blanquer, qui pilote la réforme des lycées, le sait bien, avec les travaux personnels encadrés ou avec les enseignements d'exploration, qui sont une des nouveautés importantes de la classe de seconde. Et on a, par exemple, dans le champ scientifique, un enseignement où on peut faire travailler ensemble un professeur de mathématiques, un professeur de technologie industrielle. De même qu'on a, avec un enseignement comme littérature et société, la possibilité de faire travailler ensemble un professeur de lettres, un professeur d'histoire, un professeur d'économie. Donc, je crois qu'il y a là quelque chose qui est nouveau dans l'histoire du système éducatif. Et l'amorce de cette nouveauté, c'est vraiment, dans les années 90, l'initiative de l'Académie des sciences et la main à la pâte. Et je pense que nous avons intérêt à continuer à raisonner dans cette perspective-là, qui rejoint d'ailleurs tout à fait celle du socle commun de formation au niveau de l'école primaire et du collège.
Alors, je vais vous parler de témoignages. Je vous propose de commencer par écouter le premier, celui de Marie-Christine Cosson. Elle est professeure des écoles en Haute-Savoie, au Clarine, à Bernex, avec sa collègue Christelle Léry. Elles font partie des lauréats 2011 des prix La main à la pâte. Leur projet s'intitulait Apprenti chimiste. Et leurs élèves du CE1 jusqu'au CM2 se sont penchés sur la place de la chimie dans la vie courante, comment faire de l'eau gazeuse, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on fait une vinaigrette ou de la crème chantilly. Et aujourd'hui, les élèves, elles le constatent, s'approprient pleinement cette démarche scientifique, y compris dans la cour de l'école. Alors je vous propose d'écouter Marie-Christine Cosson qui a accepté de nous répondre par téléphone et puis je vous laisserai ensuite réagir à ce témoignage.
Je m'aperçois qu'au fil du temps, avec les élèves qui passent une seconde année avec nous à l'école de Bernex, qu'ils ont une capacité à se poser très souvent des questions qui n'arrivaient pas avant comme ça. Un premier témoignage, nous avons cette semaine des tablettes tactiles dans l'école et la première réaction des enfants a été de se demander comment fonctionnait l'écran tactile plutôt que de se mettre à essayer de jouer avec cet outil qui était pourtant nouveau. Une seconde anecdote, des enfants à une récréation qui sont descendus avec leur dynamo et qui ont essayé de poser la dynamo sur un petit vélo maternel pour faire tourner la roue, faire allumer la lampe liée à la dynamo, plutôt que d'aller jouer, parce qu'il fallait absolument qu'ils vérifient que leur dynamo fonctionnait.
Donc effectivement, on voit bien que ces démarches-là sont entrées maintenant dans leur vie courante. Ce sont des démarches que vous appliquez, vous aussi, maintenant, dans d'autres disciplines.
Alors, cette démarche scientifique est très courante, maintenant, évidemment, en sciences. Et j'utilise aussi cette façon de réfléchir, donc poser une question, émettre des hypothèses, puis vérifier par différentes recherches ou manipulations, dans d'autres matières. Par exemple, en maths, j'ai posé la question « qu'est-ce qu'un nombre décimal ?» Donc les enfants ont émis plusieurs hypothèses sur la présence de la virgule, sur la partie entière, sur ce qu'ils pouvaient savoir d'un nombre décimal. Puis je leur ai demandé, pour vérifier leurs hypothèses, de me donner 15,3 pailles, donc en leur fournissant des pailles entières. Et donc, ils ont dû manipuler leur paille et essayer de vérifier ce qu'était qu'un nombre décimal à travers cet exercice de création de 15,3 pailles. Et donc, j'ai eu des résultats très étonnants. Par exemple, un groupe d'élèves m'a donné 15 pailles, une virgule fabriquée par une paille et 3 pailles entières derrière. On dit que d'autres élèves ont tout de suite pensé à couper certaines pailles, faire 3 morceaux de paille, mais qui ne correspondaient pas forcément à 3 dixièmes au départ non plus. Et à partir de là, on a pu progresser sur les dixièmes, les centièmes, et arriver à une conclusion de la composition d'un nombre décimal. Et je l'utilise aussi dans des matières comme histoire ou géographie aussi, très facilement, et même en grammaire.
J'aimerais savoir si vous savez ce que deviennent vos élèves qui étaient en CM2 qui sont passés en 6e. Est-ce que le choc n'a pas été trop dur en passant en 6e, notamment dans les matières scientifiques?
Je reçois les livrets scolaires trimestriels des élèves qui partent en 6e suite à leur passage dans ma classe de CM1, CM2 à l'école de Bernex. Et je suis assez surprise de leurs résultats en sciences, qui ne sont pas à la hauteur de ce que j'attendais. Il y a 2-3 ans, ça se passait à peu près correctement. Cette année, j'ai eu la surprise de voir que ces enfants n'étaient pas performants en sciences. Je me suis posé plusieurs questions à ce sujet. J'ai d'abord réalisé qu'ils étaient notés avec des notations donc sur 20, alors que nous, à l'école primaire, nous validons des compétences. Et quand on pense à valider les compétences de la démarche scientifique, ça n'a rien à voir avec une notation chiffrée d'un savoir appris par cœur et qui serait retransmis par les enfants. Voilà, donc je me pose cette question le lien école-collège au niveau de la démarche scientifique. Après, en ce qui concerne les savoirs et apprendre par cœur, je vais m'attacher à expliquer à mes élèves et à leur donner de la méthodologie pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais je vais continuer cette démarche scientifique qui fait partie des programmes et à laquelle je suis très attachée et pour laquelle je pense qu'il est important de continuer à les séduire avec cette démarche qui permet de se poser les questions et surtout de penser à chercher des réponses.
On a entendu donc ce professeur des écoles, j'aimerais avoir vos réactions. J'ai vu les yeux de Pierre-Léna pétiller au moment justement de ces partages d'expériences, notamment lorsque l'on parlait de tablettes tactiles, mais aussi donc Jean-Michel Blanquer, vous parliez de ce passage du primaire au collège avec justement faciliter ce passage qui n'est pas forcément évident. Donc j'aimerais avoir vos réactions. Pierre-Léna, peut-être pour commencer.
Oui, cette transition a été peut-être une de nos motivations essentielles de proposer l'enseignement intégré. Et Alain Boissineau, je me souviens très bien auquel j'en parlais en 2003 ou 2004, au moment où on y réfléchissait, comme André Husnet d'ailleurs, que personne que j'estime beaucoup aussi, tous les deux vous m'aviez dit « c'est ça le point sensible pour les sciences », c'est-à-dire passer d'une vision de la science intégrée à l'école primaire, comme elle l'est naturellement, pas marquée d'étiquette disciplinaire, à cette vision morcelée du collège. Donc, ce que dit cette dame, au fond, ne m'étonne pas, parce que c'est ce que nous voyons et c'est ce qui nous a motivés à changer. Il y a eu une publication très intéressante d'évaluation, faite par la direction de l'évaluation du ministère de l'Éducation nationale au mois de décembre dernier, sur la pratique des professeurs de l'EIST. Et ce qu'ils disent de façon quasi unanime, c'est que non seulement ce travail où ils ont dû aller aux frontières de leurs connaissances scientifiques, mais en sixième peuvent le faire, les a intéressés du point de vue intellectuel, indépendamment des élèves, mais aussi ils ont réalisé entre eux leurs différences de langage, de vocabulaire, et qu'ils ont eu du mal à se mettre d'accord. Alors si trois professeurs certifiés ou parfois agrégés qui ont 20 ans de métier derrière eux, ont du mal à se mettre d'accord sur le sens du mot énergie, par exemple, entre eux, comment un enfant qui n'aura pas dans son environnement culturel, familial, nécessairement les outils pour décoder, pourra-t-il faire la synthèse dont Jean-Michel Blanquer parlait tout à l'heure pour affronter les problèmes du monde aujourd'hui, l'énergie, par exemple. Donc, la rupture dont elle parle, c'est exactement le point que nous avons voulu essayer de compenser.
Jean-Michel Blanquer, alors, sur ce point.
Oui, il y a beaucoup de choses dans cette interview, beaucoup de choses intéressantes. L'une d'entre elles que j'aimerais souligner aussi, c'est le fait de s'appuyer sur des choses concrètes. Vous voyez, elle a parlé de ses pailles et l'initiation au décimal à travers cet exercice des pailles. Elle le renoue là avec des, je dirais, des recettes pédagogiques assez bien connues, que parfois d'ailleurs on oublie un peu. C'est-à-dire, par exemple, nous sommes très attentifs en ce moment à l'enseignement des mathématiques à l'école primaire. Et cet enseignement des mathématiques, que ce soit l'apprentissage des nombres, l'apprentissage des mesures, eh bien, ça réussit d'autant plus qu'il s'appuie sur des choses concrètes. Vous savez, par exemple, le fait d'avoir des petits poids pour une balance, ou des choses comme ça, ou dans les cultures asiatiques, on utilise beaucoup le boulier, ça nous paraît quelque chose de très intéressant. Et donc, le fait de pouvoir toucher, de pouvoir être dans des choses très concrètes, c'est aussi ça qui permet à la fois l'interdisciplinarité et puis l'envie d'apprendre. Parce que les enfants voient mieux de quoi il s'agit. Et puis même quand ils font une erreur, ça n'est pas grave. Parce que c'est aussi cela que nous devons mieux intégrer dans nos façons de faire. C'est qu'on procède par essai-erreur. C'est un des éléments clés de la science même. Et donc les enfants peuvent apprendre ça naturellement en étant positionnés, non pas dans une recherche ex nihilo, mais dans une recherche guidée qui va les amener à comprendre un résultat et à intégrer évidemment des leçons qu'on veut leur faire comprendre.
À la Boissineau, alors, justement, quel est votre regard ?
Moi, j'ai trouvé que l'intervention de cette enseignante était extrêmement significative. La première chose qu'on voit de façon frappante, c'est le renversement de perspective par rapport à un certain discours pédagogique traditionnel. Là, on a une enseignante qui ne nous dit pas « est-ce que je traite le programme ? Est-ce que je vais terminer le programme ?» C'est-à-dire, elle ne raisonne pas par rapport à une représentation théorique et a priori de sa discipline. Tout au long de son intervention, elle se réfère à ce que font les élèves, à la manière dont les élèves agissent, à la manière dont les élèves apprennent. Donc on voit bien qu'il y a un renversement de perspective total, qui je crois est quelque chose de tout à fait essentiel et de très constructif. Puis l'autre aspect, c'est qu'elle a mentionné un enjeu essentiel qui est celui de l'évaluation. Des pratiques pédagogiques nouvelles, elles appellent un autre regard sur les élèves et donc d'autres pratiques d'évaluation. Je crois que c'est un grand enjeu là aussi. On sait bien les tiraillements qui existent actuellement dans notre système avec la mise en œuvre du socle commun, par exemple, à l'école primaire et au collège, et la difficulté de concilier les exigences traditionnelles par rapport à des connaissances, qui ont évidemment toute leur légitimité et qu'il faut préserver, et puis la prise en compte des compétences et des progrès des élèves en matière de savoir-faire. Et pour les enseignants, ça se traduit concrètement par, en effet, une attention portée aux problèmes d'évaluation et par la nécessité de lisser les procédures d'évaluation entre l'école primaire et le collège. Et là, on retrouve cette logique de la continuité nécessaire entre le premier degré et le second degré.
Alors, une précision pour cette classe que Marie-Christine Cosson avait. Elle avait deux élèves CLIS, c'est-à-dire classe d'intégration scolaire. Et elle nous expliquait hors antenne que ces élèves qui présentent des difficultés assez importantes au niveau de l'apprentissage des connaissances, donc suivaient un programme en dehors de l'école et avaient des cours avec le reste des élèves, notamment en sport. Et elle a décidé de les intégrer aussi à ces modules de sciences, donc d'expérience. Et elle a eu la surprise et l'agréable surprise de voir que c'était des élèves qui, à travers justement ces expériences de l'aspect collectif, s'intégraient déjà pleinement à la classe et émettaient des hypothèses très intéressantes parce qu'ils étaient aussi très vifs d'esprit. Donc c'est aussi une autre manière de percevoir les élèves que l'on a en face de soi, Alain Voisineau.
Non, mais vous avez dit l'essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, on a là une approche pédagogique qui permet d'être beaucoup plus attentif à la diversité des formes d'apprentissage, à la diversité des élèves, et donc qui se prête bien à intégrer, hein, alors que l'approche traditionnelle tend à faire le tri entre les bons et les mauvais élèves, et c'est comme ça qu'on arrivait à décourager malheureusement beaucoup trop de jeunes. On sait bien qu'un des grands problèmes de l'enseignement des sciences dans notre pays, c'est qu'il y a trop de jeunes qui très tôt intègrent un sentiment d'incapacité, d'impuissance, hein, par rapport à l'enseignement scientifique, alors qu'il faut au contraire leur donner confiance en eux-mêmes.
Pierre Léna.
Oui, je suis intéressé que vous ayez mentionné ces classes d'insertion scolaire, les CLIS, parce que ça a été une de nos grandes surprises et un choc profondément intériorisé lorsque, il y a maintenant 6 ans, dans l'Académie de Toulouse, un centre d'accueil d'enfants, c'est-à-dire, ce n'était pas une CLIS, a mis en œuvre la main à la pâte pendant 2 ans avec des enfants ayant des handicaps physiques terribles. Et je suis allé dans ce centre, nous avons même tourné un film, et leur éveil au contact de tâches expérimentales dans des situations de handicap intenses et leur capacité d'en faire quelque chose est extraordinaire. C'est cela qui nous a encouragés à monter maintenant avec le Conseil national du handicap un projet et l'Institut national de formation des enseignants à Suresnes, un projet qui est plus de la recherche qui touche une trentaine de CLIS aujourd'hui. Il y a là un chantier difficile, très émouvant, mais je crois dans lequel nous apprenons beaucoup de choses sur ce que vous venez de dire, Alain Voisineau.
Je vous propose d'avancer et d'écouter un second témoignage. Nous étions à l'école primaire, nous allons passer au collège, avec Catherine Bonnefond, qui est professeure de SVT au collège Pablo Picasso de Sceaux-les-Chartreux dans l'Essonne, un département dont vous avez la charge, Alain Voisineau. Elle pratique l'enseignement intégré des sciences et des technologies depuis les débuts de l'expérimentation, depuis 2006, donc il y a 6 ans. Et elle nous présente sur le plan pratique comment ces cours se déroulent. Je vous propose d'écouter cette deuxième intervention par téléphone aussi.
Les élèves de 6e EIST, nous avons un grand avantage, c'est que nous les voyons 3h30 par semaine contre 1h30 par semaine si on les avait uniquement, par exemple, en SVT. C'est un cours de sciences. On dit aux élèves que nous sommes profs de sciences et nous faisons avec mes deux collègues, le collègue de technologie et le collègue de sciences physiques, nous construisons un cours. Il faut absolument que nous intégrions dedans le programme de SVT et le programme de technologie de la classe de 6e. Mais bien sûr, nous mettons des sciences en général, donc il y a des sciences physiques et de la chimie, bien sûr, qui sont faites dans cet enseignement.
Et donc, vous avez des classes avec moins d'élèves que ce que vous devriez avoir, puisque les classes sont divisées en 3. Vous avez 2 classes de 6e divisées en 3 parties.
Deux classes de 6e divisées en 3 groupes, ce qui fait que nous travaillons en effectif allégé. Ça, c'est un avantage.
Dans votre collège, vous faites cette expérimentation sur 2 classes, sur la totalité des 6e que vous avez. Vous avez fait le choix de ne pas renouveler l'expérience sur les 5e. Pourquoi ?
Parce qu'on considère qu'en 5e, il y a les élèves abordent la physique-chimie, donc il y aurait 3 programmes à intégrer, 3 programmes scolaires, qui est trop difficile, puisqu'il y a un accent disciplinaire qui est énorme. On étudie l'énergie, soit au niveau du fonctionnement du corps humain, au niveau... sciences physiques, mais pour faire toute l'année de manière intégrée, ça nous semblait trop difficile. On n'arrive plus à intégrer exactement toutes les parties du programme qu'on voudrait faire.
Les élèves, sont-ils globalement contents d'intégrer les EIST ? Quels sont les retours que vous avez de ces élèves ?
Alors, du point de vue élève, on a des retours qui sont très positifs, mais avec une certaine limite. Il y en a certains qui sont ravis d'être acteurs du cours, de pouvoir apprendre par eux-mêmes. et qui s'y plongent avec bonheur et délectation. Mais il y en a d'autres qui pensent qu'effectivement, c'est un joli moment de récréation, où ça peut être positif ou négatif. Ça peut être la récréation, je joue et j'en profite pour ne rien faire, ou c'est je suis content de pouvoir apprendre d'autres choses autrement, et par moi-même.
Difficile de mobiliser l'attention de la totalité des élèves, on l'aura compris. Là encore, beaucoup d'éléments qui transparaissent. 3h30 avec un même professeur, voilà un élément positif. Des effectifs réduits pour travailler avec ses sixièmes. Cela demande par contre un minimum d'entente pour travailler en symbiose avec les autres professeurs, se mettre en accord pour avancer au même rythme dans le programme. Et alors, cette question de savoir s'il faut avancer aussi en cinquième sur ces EIST. Alain Boissineau, peut-être pour commencer, quelles sont justement vos réactions à l'écoute de ce second témoignage?
D'abord, je voudrais dire que je suis très fier du travail que fait l'équipe de Saulx et Chartreux. Ils ont souvent été mentionnés, effectivement, pour leur travail assez exemplaire de cet enseignement intégré des sciences et de la technologie. Voilà, c'est un beau témoignage de la capacité des enseignants dans les établissements à aller de l'avant et à innover. Alors, deux remarques dans ce que disait très bien cette enseignante. La question de la cinquième, faut-il prolonger l'expérience vers la cinquième, etc. Et on voit bien que les réticences dont faisait part cette enseignante ne tenaient pas au fait qu'elle pensait que l'approche EIST ne serait pas pertinente en cinquième. Elle tenait au fait qu'elle craignait que ce ne soit pas compatible avec les exigences des programmes. Donc on retombe dans la tenaille que j'évoquais tout à l'heure. Est-ce que c'est bien raisonnable ? On parle d'élèves qui, lorsqu'ils sont en cinquième, ont encore devant eux de nombreuses années de scolarité. On parle d'élèves qui, en 2012, ont vocation, non plus comme c'était le cas encore naguère, à arrêter leurs études à la fin du collège ou au niveau du baccalauréat, mais qui continueront de plus en plus nombreux leurs études dans l'enseignement supérieur. Donc, ils ont encore devant eux un très long parcours d'études. Quel inconvénient y aurait-il à desserrer au niveau de la cinquième la contrainte des programmes pour les laisser travailler et consolider justement l'approche de base de l'enseignement des sciences et à renvoyer les acquisitions programmatiques contraignantes à des stades ultérieurs? Voilà, je crois que ça, c'est un débat qui est devant nous et il ne faudrait pas que le surmoi des enseignants, qui sont très attachés à un niveau d'exigence manifesté par les programmes, les empêche de se sentir libres d'aller de l'avant pour innover comme l'EIST le permet de le faire. Et puis, deuxième remarque, on a parlé, et cette enseignante parlait également très bien, du positionnement des trois disciplines, sciences de la vie et de la terre, technologie, physique-chimie. Un des enjeux essentiels à mes yeux dans l'affaire de l'EIST, c'est de remettre la technologie dans le jeu des enseignements scientifiques. Notre système scolaire a trop longtemps pâti du fait que l'enseignement des sciences était abordé dans une perspective uniquement abstraite, ou trop essentiellement abstraite, et qu'on ne se posait qu'en tout à fait fin de parcours le problème de l'application des sciences. Vous savez, le modèle traditionnel, on commence par faire l'école polytechnique, et puis quand on est au bout de l'école polytechnique, on passe dans ce qu'on appelait une école d'application. Je crois que ça se dit encore, d'ailleurs. Ce qui est la caricature même, à mes yeux, de ce que peut être une démarche scientifique. Et donc, la technologie est un enjeu essentiel. Il faut absolument qu'on réconcilie, et l'EIST est peut-être le creuset pour le faire, qu'on réconcilie les sciences, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, qui ont leur légitimité, y compris universitaire, académique, et puis la technologie qui vient d'un autre horizon dans nos collèges, que peu à peu nous essayons de réamarrer au champ des sciences, de manière à pouvoir avoir un bloc d'enseignement cohérent et qui concilie la réflexion abstraite et l'observation du concret dont la technologie doit être un levier essentiel.
Jean-Michel Blanquer, alors sur cette question des programmes, faut-il respecter ou non la totalité du programme? Que se passe-t-il justement pour ces professeurs qui sont tentés à la fois de répondre à la demande de leurs élèves et puis qui sont aussi dans l'obligation de respecter un programme?
Aujourd'hui, pour tout professeur, quelle que soit la discipline, quelle que soit la classe, il y a finalement deux points de repère. Il y a d'une part les programmes, qui sont indispensables en tant que point de repère, évidemment, qui sont une ossature, une colonne vertébrale. Et puis il y a le socle commun de connaissances et de compétences qui propose une autre approche, non pas contraire mais complémentaire au programme, puisque ce socle définit justement, domaine par domaine, de façon interdisciplinaire, les compétences que progressivement un élève doit acquérir d'une manière personnalisée, c'est-à-dire en réalité à son rythme. Et toute la démarche du socle commun de connaissances et de compétences, c'est de faire en sorte que non seulement le professeur, mais les professeurs, ensemble, d'une même classe, puissent évaluer l'élève régulièrement et l'aider à lui faire passer certains caps et l'aider à avoir à la fin le socle commun de connaissances et de compétences qui est finalement la culture générale de l'homme honnête du XXIe siècle que nous voulons pour tous les élèves de France à la sortie de la troisième. Donc, tout cela, ce sont des références. Ce qui compte, c'est le but. Il ne faut pas confondre le doigt qui montre la lune et la lune, si vous voulez. Le programme, c'est le doigt, le socle aussi, d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est évidemment que l'élève atteigne l'objectif. Et de ce point de vue-là, il faut des stratégies pédagogiques variées, il faut laisser une créativité au professeur, d'où l'évolution que nous faisons vivre à la notion même d'inspection aussi. L'inspecteur n'est pas là tant pour contrôler que le programme a bien été fait dans les temps, d'une manière un peu rigide, mais au contraire pour aider l'enseignant à ce que les élèves réussissent tout simplement. Et ceci prend évidemment des tours et des tours qui sont particuliers dans chaque endroit et qui supposent qu'on soit dans une atmosphère générale de confiance. C'est une des choses peut-être qui va aussi avec la science, c'est-à-dire le fait que pour faire cela, il faut qu'il y ait confiance déjà au sein des équipes de professeurs pour travailler ensemble, du professeur vers l'élève pour communiquer la confiance en soi dont parlait Alain Boissineau, et puis de façon générale de l'institution, personnalisée en l'occurrence par les inspecteurs ou les chefs d'établissement, vis-à-vis des professeurs, c'est-à-dire que on est tous ensemble pour faire réussir l'élève et non pas dans une espèce de course à l'échalote référée au programme. Ceci n'invalide absolument pas les programmes, je suis le dernier à pouvoir dire une chose pareille, mais c'est au contraire, ça leur donne leur véritable sens, qui est extrêmement important justement.
Pierre Léna, pour accompagner ces professeurs, viennent de s'ouvrir et vont continuer de s'ouvrir les maisons régionales pour la science, donc des maisons qui sont destinées aux professeurs du primaire, mais aussi du secondaire. Qu'est-ce qui va se faire? Qu'est-ce qui va se passer dans ces maisons régionales pour la science?
Vous avez prononcé le mot clé absolu, accompagner. La science est perçue par quasi-totalité des professeurs de l'école primaire, les professeurs des écoles, et à ma surprise d'ailleurs, par beaucoup de professeurs de collège, ce que nous n'attendions pas comme très distante d'eux. Et ces évolutions contemporaines, extrêmement rapides, encore plus distantes. Et donc, l'accompagnement que l'Académie, avec le ministère, a mis en place pour la main à la pâte en primaire, et puis maintenant pour l'enseignement intégré, est vraiment centré sur une idée, rapprocher ces professeurs d'une science vivante. Mais une science vivante, c'est des hommes et des femmes vivants. Hein. C'est-à-dire, ce sont des praticiens qui peuvent travailler à côté d'eux pour leur dire « la science, c'est plutôt ça que ce que vous imaginiez ». Une session récente faite avec des professeurs de primaire et qui, au bout d'une semaine de vie collective, avec des scientifiques, nous disent « mais jamais j'aurais imaginé que la science, c'était ça ». Et ils ajoutent « jamais je n'aurais pensé pouvoir parler à un scientifique ». Et ça donne une mesure de ce fossé très profond qui existe entre ceux que la nation a chargé de transmettre la science à nos enfants et puis la réalité de ce qu'elle est. Donc c'est ça qu'il faut transformer. Ça ne se fait pas en un jour. Je ne crois pas que ça se fasse, quelle que soit la qualité des formations initiales que les universités peuvent donner aux futurs professeurs. Dans ce, on peut donner des lignes au départ, mais ça se fait dans la longue durée, dans une fréquentation en fonction des contraintes que les professeurs ont, du travail en équipe, etc. Donc il faut assurer des outils dans la longue durée, en complément de ce qu'apportent les inspecteurs pédagogiques ou les inspecteurs de l'éducation nationale. Mais en se souciant que ce soit le monde scientifique qui soit ce partenaire, parce qu'il témoigne de ce qu'il vit. Et donc l'accompagnement est essentiel. On peut appeler ça développement professionnel des professeurs ou formation continue, si l'on veut. Bon, l'Académie a des limites de force pour le faire. Et ce que nous avons voulu faire avec les maisons que vous évoquez, c'est au moins dans quelques universités, dans quelques régions de France, de mettre au point des dispositifs, des démonstrateurs, si vous voulez, des dispositifs prototypes que l'État a bien voulu financer avec les investissements d'avenir et qui vont montrer qu'on peut créer ce compagnonnage quotidien avec plus de moyens que nous ne l'avons fait jusque maintenant, entre des scientifiques, chercheurs, ingénieurs, techniciens, et les professeurs de collège. Et nous pensons que c'est un élément important de ce qu'on appelle l'égalité des chances, c'est-à-dire que la science ne soit plus celle qui sélectionne exclusivement et souvent ceux qui sont bien nés, mais qu'elle devienne, c'était la grande intuition de la Révolution française, de Monge et d'autres, qu'elle devienne celle qui permet de compenser les handicaps de la naissance.
Alors, deux mots pour terminer cette émission. Alain Boissineau, j'imagine que vous regardez ça avec beaucoup d'intérêt, puisque les deux premières maisons vont s'ouvrir à Strasbourg et Toulouse.
Oui, je suis un peu jaloux, Pierre Léna le sait, mais
je sais, oui.
Jean-Michel Blanquer, pour terminer cette émission, comment vous envisagez l'avenir des sciences pour le primaire et le secondaire?
Ce que j'envisage, c'est d'abord l'extension de l'esprit main à la pâte, et donc de l'esprit EIST, qui font une seule et même chose. et dont nous avons abondamment parlé, l'esprit expérimental, l'esprit de continuum, l'esprit de travail collectif. Tout cela est très important et que ça se prolonge, comme ça a été dit aussi, vers le lycée. Et il est important de mentionner, dans la lignée de ce que Alain Boissineau a dit sur la technologie, que nous sommes en train de réformer les voies technologiques, enfin nous les avons réformées. Notamment, il y en a une particulièrement significative, c'est ce qu'on appelle sciences et techniques de l'industrie, qui est devenue sciences et techniques de l'industrie et du développement durable. Parce que c'est évidemment en lien avec ce qui se passe en technologie en amont et en lien avec ce qui se passe aussi dans les formations technologiques en aval. Je pense en particulier à ce qui se passe dans les IUT. Et cette culture technologique extrêmement concrète, très reliée à nos grands enjeux, par exemple les enjeux de l'énergie, en effet, ou les enjeux du numérique, c'est quelque chose de très important, d'abord pour que la société française soit vive avec son temps et soit adaptée aux défis économiques, sociaux du XXIe siècle, parce qu'il y a des débouchés aussi pour nos élèves en la matière, mais aussi d'un point de vue plus conceptuel, parce que c'est l'esprit STI2D, si je puis dire, ça appartient aussi à l'esprit EIST, c'est-à-dire il s'agit de faire travailler ensemble des disciplines, le tout en étant relié à des enjeux concrets de la vie de tous les jours ou de la vie professionnelle. Et donc, il y a un courant d'ensemble qui va de l'école primaire jusqu'à la terminale et même au-delà, qui est tout simplement un courant concret qui veut que les élèves réussissent de manière différente pour chaque élève, mais en reliant tout cela à des enjeux concrets pour chaque élève.
Eh bien, je vous remercie à tous les trois d'être venus nous voir. Merci de vos explications et j'espère à bientôt pour une prochaine émission. Merci à vous.
Merci.